RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Bonjour à tous. Pogacar d'assaut en assaut fait plier la concurrence encore un peu plus au Lioran. Mais paradoxalement, on a senti qu'il avait cette fois dû mettre beaucoup d'énergie pour ne gagner qu'une trentaine de secondes sur ses premiers concurrents. Et quid de ses équipiers, à l'image de Del Toro, lâché, coup de mou, passager lié au lendemain de la journée de repos ou constat plus grave? On tentera avec toute l'équipe de l'After Tour de décrypter cette journée particulière chez UAE. Si ce ne fut pas un feu d'artifice pour les Français en ce jour de 14 juillet, l'élu Sexas a encore prouvé un peu plus qu'il était désormais dans la cour des grands. Paul épatant, pole position même à certains moments dans cette course. Et si cette journée ouvrait des horizons nouveaux aux leaders de l'équipe Décathlon CMA-CGM? On parlera des autres Français aussi. Et puis, chers auditeurs, vous pourrez poser vos questions en fin d'émission à nos consultants. C'est l'After, on est à l'heure. Que du bonheur, tout de suite le film de la journée.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France. Aujourd'hui, la 10e étape, une étape très excitante aujourd'hui sur les routes escarpées du Cantal. C'est une étape de montagne, alors c'est pas une étape de grand massif, mais c'est une étape casse-pattes qui va sans doute faire beaucoup de dégâts après une première partie de Tour de France où les coureurs ne se sont pas épargnés, loin de là.
Ça roule très vite, on a tout compris, on sait, Pogacar veut l'emporter aujourd'hui à l'arrivée au Lyon.
Il n'y a pas de suspense, il va y avoir accélération des UAE dans le Puy-Marie certainement, et un démarrage de Tadej Pogacar. Va-t-il lâcher tous ses adversaires? Ça reste la question, il reste le suspense de cela.
Il y a 1,5 km du passage au Puy-Marie pour l'instant, un homme en tête et les équipiers de Pogacar, certains qui sont en train de se ranger, mais le maillot jaune n'attaque toujours pas. On a vu également la formation Décathlon CMA-CGM qui est bien représentée pour entourer Paul Sexas. Ils sont juste en deuxième rideau, juste derrière les UAE.
Oh, attention, parce que là, c'est Paul Sexas qui durcit la course avec Nicolas Prodhomme devant Tadej Pogacar. Alors, sans doute pour se placer dans la descente aussi, mais ça, c'est un premier signe très intéressant. Paul Sexas est en forme. C'est parti pour Tadej Pogacar, tu l'avais bien vu. Le voilà, le test. Tadej Pogacar qui démarre. Il reste 1 km pour Richard Carapaz. Tadej Pogacar et son maillot jaune ont décidé de placer la flèche et ça fait mal, ça fait très mal. Derrière, personne n'arrive à suivre. Ça y est, Tadej Pogacar qui revient sur Richard Carapaz. Il n'a plus que 5-6 mètres de retard et il va très certainement passer à une vitesse folle juste à côté de l'équatorien.
RMC, la flamme rouge.
Tadej Pogacar qui se retourne une nouvelle fois. Peut-être qu'il n'a pas trop d'indications dans les oreillettes parce que c'est étonnant. Pourtant, la victoire est là. Elle lui tend les bras. Il va pouvoir lever les bras dans un instant, Tadej Pogacar qui s'impose au Lioran avec sans doute moins d'une minute d'avance sur ses adversaires. Il ne peut pas lever les bras. Si, derrière la ligne, il montre son maillot jaune.
Sexas pour la deuxième place, attention.
Qui va y aller, Sexas qui va essayer de rattraper. Remco Evenepoel, il est plus fort. Evenepoel, Vingegaard n'est plus là. Vingegaard a lâché. Sexas peut gagner du temps.
Allez,
également
allez,
sur les trop vite. C'est parti, Remco Evenepoel pour la deuxième place, mais sans doute Sexas pour la troisième. Allez,
il y a des écarts derrière. Ayuso,
vas-y mon petit, vas-y, va chercher des points, va chercher des bonifications, ça peut jouer à la fin. Sexas devant Lipovic,
oui.
Sexas troisième.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux, frais et dispo après une journée de repos, est avec nous. Salut Christophe.
Il fait un peu moins chaud aujourd'hui, on a pu récupérer.
On est mieux, ouais. Ils ont bien récupéré les GG aussi, ils sont dans les starting blocks pour cet After Tour. Bonsoir Jérôme Pinault.
Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Jérôme Coppel.
Bonsoir.
Les supporters de l'équipe de France de foot aussi et de Paul Sexas, évidemment. Vous allez bien messieurs, vous avez vécu une belle journée?
Oui, très belle journée. Nous ici, ça allait. Sur le vélo, ça ne doit pas être le cas tout le monde.
Et Richard Virin qui est en notre compagnie. Bonsoir Richard.
Bonsoir à tous.
Tu as pris du plaisir aujourd'hui en regardant cette belle bataille?
Oui, forcément. On était dans un terrain qui était assez sympa, avec des ascensions, des attaques, des favoris qui sont là, un Français à l'avant, Lini Martinez aussi au contact. Non. On a vécu un peu de suspense, la route qui était dangereuse. Non, c'était très intéressant, même si Pogacar a gagné. On va dire qu'il a moins écrasé la course, il a fait un peu plus de cinéma, à mon sens. Mais voilà, donc non, c'était très intéressant.
Ça, on va en reparler dans un instant de ta vision des choses. Ce sera peut-être pas la même que nos autres consultants, mais ce que je vous propose, c'est tout de suite, pour réasseoir un petit peu le scénario de la journée, bien, ce sont les classements avec toi, Christophe.
La victoire donc de Tadej Pogacar, la troisième en 2026 pour le maillot jaune, pour le champion du monde qui s'impose avec 32 secondes d'avance sur Remco Evenepoel, qui a réussi à sprinter dans le final. Il devance notre élu Paul Sexas, qui termine troisième à 2 petites secondes seulement de Remco Evenepoel. Sexas qui règle Florian Lipovic, Ayuso arrivé 4 secondes plus tard, Skelmose et surtout Jonas Vingegaard qui termine que 7ème. Vingegaard qui a beaucoup donné, qui a essayé d'assurer les relais, mais qui à la fin a pris un coup sur la tête. Il termine avec 44 secondes de retard derrière Pogacar. Et puis Del Toro également, autre battu du jour, qui arrive à 1.31 de son coéquipier. Et puis les autres Français sont un peu plus loin, c'est le cas de Lenny Martinez qui est 10ème à 2:03 du maillot jaune. Au classement général, et bien au classement général, il n'y a qu'un seul homme en tête, on le connaît depuis bien longtemps, il encore accroît son avance, il possède désormais 3 minutes 36 d'avance sur Jonas Vingegaard, 4.06 sur Remco Evenepoel. Juan Ayuso est 4ème au classement général à 4.22, et la bonne affaire, elle est pour Paul Sexas qui gagne un rang au général, il est ce soir 5ème à 4.35, Lenny Martinez rétrograde d'une place, 9ème ce soir à 6 minutes 34.
Paul Sexas, ce sera évidemment le thème de notre deuxième partie de cet After Tour dans quelques instants, mais tout de suite, on le disait, Pogacar toujours seul au monde, mais avec une équipe un peu moins impériale. Focalisons pour l'instant avec toi, Richard, sur le leader Tadej Pogacar. Tu dis, il a fait un petit peu de cinéma. Explique-nous un peu, toi, ta vision de cette victoire aujourd'hui.
Pour connaître un peu le vélo et voir le faciès des coureurs et voir le coup de pédale de certains, pour analyser, hein, je regarde ça depuis quelques temps, vous avez vu quand il a attaqué, il a mis une vraie attaque avec beaucoup de puissance en l'espace de 500-600 mètres, il a creusé, il est revenu sur Richard Carapaz. Ouais, voilà, il a mangé, donc toute sa puissance, son développement, tout ça. Donc là, pas de problème. Après, ensuite, il était tout seul devant. Derrière, ils se sont tous relayés, hein, pour aller chercher en faux plat montant. Donc là, il avait normalement un désavantage. Il les a maintenus à 20 secondes. Et après, ils se sont en plus attaqués derrière pour essayer de revenir. Donc, et on voyait Pogacar, il a l'oreillette. On est dans les dernières technologies de tout ce qui peut exister avec les oreillettes et tout ça. Et il faisait tout le temps de se retourner, de bouger un peu plus le bassin, de grimacer. Mais pour moi, j'ai jamais vu Pogacar, depuis que je le regarde. Moi, ça, je le vois. Et Jérôme Coppel ou qui me confirme Pino. Pas, mais Pino, de me dire dans les critériums, c'est ce qu'on fait. On tourne les jambes, on tourne la tête, on met une attaque, on ouvre la bouche. On était dans un show, voilà, on montre qu'on souffre. Franchement, moi j'ai vu ça. Hein. Après, peut-être j'ai jubilé, mais en tout cas, une chose est sûre, il est fort, il a confirmé, mais il n'était pas du tout en régression, bien au contraire. Il est tellement fort qu'aujourd'hui, il doit lever un peu le pied, il gagne toujours, mais il ne doit pas arriver avec 2 minutes d'avance. Parce que imaginez, il arrive avec 2 minutes aujourd'hui là. Hein ? Et ben là, je crois qu'ils doivent tous prendre un exomil ce soir, dire ben voilà, le tour est. Parce que là, tout le monde y croit un peu quand même. Hein, donc, même. Ouais. Voilà. C'est mon avis en tout cas.
Jérôme Coppel.
Ouais, je suis
tu
pas.
Tu modères ou pas ?
Je modère. Je suis pas trop de ton avis, Richard, parce que déjà, collectivement, on a vu qu'ils étaient un peu plus justes. Del Toro, on l'a dit, a sauté. McNulty a même pas roulé, a sauté avant de pouvoir prendre son relais. Par contre, je pense que son attaque, je suis pas sûr que son attaque était préméditée, par contre, parce qu'ils avaient vraiment envie de garder Del Toro dans le jeu. Donc, je pense que Del Toro a dit assez tôt qu'il était pas top. Et c'est pour ça que Adam Yates, à un moment, a fait un peu un faux rythme. Mais je pense qu'a décidé Pogacar à attaquer, c'est quand il a vu Piganzoli rouler pour Jonas Vingegaard. Je pense que ça, il y a un truc quand même avec Visma Lease a Bike, avec Vingegaard, on pourra me dire ce qu'on veut. Et je pense que là, il s'est dit, bon, je tente et tant pis, on verra bien pour Del Toro. C'est peut-être pas possible non plus d'emmener un coéquipier jusqu'à Paris en espérant qu'il.
Faut être trop gourmand.
Voilà, faut pas être trop gourmand non plus. Mais j'ai l'impression que cette arrivée vers le Lioran, elle lui convient pas à Tadej Pogacar. Il s'est fait battre par Vingegaard. Là, je l'ai pas trouvé fringant. Il se retournait beaucoup. L'oreillette marchait pas trop. Mais si t'es fort, tu sais que tu creuse sur, sur les autres. Tu sens quand tu appuies.
Il n'avait pas d'oreillette, mais il avait bel et bien son compteur. Donc avec ses watts, voilà, il sait qu'à ce niveau de watts-là, il ne peut pas être battu.
Donc je pense qu'il ne se sentait pas top. Et il savait que derrière, il y avait un gros groupe avec des costauds. Donc il n'était pas sûr de creuser tant que ça. La preuve, il n'a pas creusé tant que ça finalement. Et j'ai rarement vu Tadej Pogacar avec une tête aussi détruite à l'arrivée. Par contre.
C'est ce que j'allais te dire, Jérôme Pinault. C'est que son visage, là, on sentait l'effort. On voyait la sueur. On sentait qu'il était vraiment... À 100%.
Ouais.
Ce qui n'est pas toujours le cas.
Non, moi je rejoins GG. Richard a raison, peut-être qu'il a surjoué la douleur, mais en tout cas, il y avait bel et bien de la douleur. Pourquoi ? Parce que moi, je n'ai jamais vu Pogacar gérer. Je n'ai jamais vu Pogacar attendre. Je n'ai jamais vu Pogacar ne pas vouloir écraser les autres. Il gagne comme ça tout le temps. Il met des volées à tout le monde. Il démarre quand il sent que c'est le bon moment. Et là, même si Del Toro est son coéquipier, Pogacar, c'est Pogacar. Pourquoi a-t-il attaqué sur la fin alors qu'il savait qu'il allait condamner Del Toro aussi, donc il aurait pu attaquer plus tôt. Moi, je pense qu'il a vraiment souffert aujourd'hui. Et effectivement, on est le lendemain d'une journée de repos. Vous savez, la journée de repos, c'est toujours une question de dosage. Hein. Pas trop dosé, pas moins dosé, pas surdosé. Le sommeil, l'entraînement, le repos, etc. Peut-être qu'il a mal géré sa journée aujourd'hui et Del Toro aussi, parce que c'est quasiment collectif, à part, évidemment... les deux grimpeurs, Politz et Vermeche, qui eux étaient au-dessus. Sinon, les autres, je ne les ai pas trouvés impériaux.
On va parler du collectif.
Impériaux.
On va écouter Tadej Pogacar sur sa journée. Écoutez bien, il y a un petit élément intéressant aussi dans sa réponse.
C'était une journée incroyable. L'équipe a fait un super boulot. On visait cette étape depuis longtemps. Et oui, il se trouve qu'il y a deux ans, Jonas m'avait battu au sprint, à la loyale. Et aujourd'hui, j'avais les jambes dans le même état à l'arrivée, complètement détruites. Et puis, je me suis souvenu que c'était le 14 juillet et j'ai essayé de faire honneur au maillot jaune. Merci à tous les supporters qui sont venus aujourd'hui au bord de la route. L'ambiance était incroyable, même s'il y a eu quelques huées. À tous ceux qui ont hué, vous nous avez donné encore plus de force. Merci.
They give us more power.
Tiens, intéressant. Il y a des gens qui, sur la route, le huent et il dit bah, vous m'avez donné encore plus d'énergie. On rentre dans un petit combat. Là. Il n'y va pas souvent hein, dans ce domaine-là, Jérôme Coppel.
Oui, c'est vrai. Alors, ça fait quelques années déjà qu'il est hué. Moi, j'espère. On peut ne pas aimer Tadej Pogacar, ne pas aimer son équipe et ne pas aimer la domination de son équipe ou qui est à la tête de son équipe, etc. On a le droit de huer, c'est pas grave, dans les stades de foot. On hue l'équipe adverse et tout. Par contre, on doit pas respecter la course. Moi, j'ai couru avec Chris Froome qui prenait, excusez-moi, mais j'ai pas d'autres mots, mais des verres de pisse. Bah ça, non, c'est pas acceptable. Ou faire tomber quelqu'un ou quoi, ça, c'est pas acceptable. Mais c'est vrai qu'il va pas souvent sur ce terrain. Et moi, pour conclure avec aujourd'hui, sa performance d'aujourd'hui, elle m'inquiète, mais elle m'inquiète pas pour lui, m'inquiète pour les autres. Parce que s'il est pas bien et qu'il colle encore 30 secondes à tout le monde, qu'est-ce que ça va être quand il va être bien ?
Moi, c'est un peu ton sentiment, Richard. T'as le sentiment qu'il a pas tout mis, quoi. Il était pas forcément encore au maximum.
Moi, ouais, qu'il a totalement géré son attaque. Il a attendu le dernier moment. Comme vous disiez, Del Toro, c'est très important pour lui, hein, pour l'équipe, pour le garder. Tout. Il a attendu le dernier moment. Et bien sûr, il voulait montrer par rapport à Vingegaard que c'était lui le boss. Donc, il lui en a collé une. Et après, il a totalement joué parce que. Vous savez, vous êtes en montée d'école, se faire huer, moi je l'ai monté en me faisant acclamer. C'est vraiment, ça doit faire mal. Et ça, à un moment donné, on se rappelle de suite quoi. Je suis hué, pourquoi ? Parce que je suis trop fort, parce que je vais trop loin. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ah non, je suis pas bien. Hein. Ah ouais. Vous savez un peu que les coureurs quand on est plusieurs échappés, il y en a ils veulent pas passer, ils font semblant qu'ils sont pas bien. Donc il y en a souvent, hein, c'est des spécialistes de ça. Vous tournez la tête, vous les voyez avec la bouche ouverte, comme ça. Et bien sûr quand la ligne elle arrive, ils vous déboîtent et ils vous passent. Et ben moi j'ai vraiment senti, je vous parle comme je sens les choses. Hein, j'ai vraiment senti que il s'est mis à jouer quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude, c'est-à-dire il bougeait la tête à la Richard Viron quand j'attaquais là, ça bougeait un peu partout, il tournait la tête voilà. Donc, et moi franchement il est très fort, il est peut-être encore plus fort et les autres se couchent. Ben là, Vingegaard, j'ai l'impression, bon, il a tiré des bouts droits. Il a été très fort aussi, Vingegaard, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas bien après cette journée de repos. Donc, on espère que son équipe va aller mieux parce que ça ressemble. Vous savez, quand toute une équipe va bien, le leader va bien. Quand tu t'inquiètes qu'il va mal, ben voilà. Donc bon, là, je pense que Pogacar aujourd'hui, lui, il allait très bien, mais son équipe a pris un peu l'eau.
Jérôme Coppel.
Mais Pogacar, je pense qu'il va se faire de plus en plus huer, pas seulement parce qu'il est fort, parce que maintenant, nous, on a un petit Français derrière qu'on on aimerait bien qu'il gagne le Tour. Donc là, c'est rare d'avoir sur une étape aussi dure où il y a autant de castagnes, c'était rare dans les années précédentes, il y avait Pogacar devant, mais derrière, on n'avait pas de Français non plus qui allait venir jouer soit le podium de l'étape, soit peut-être mieux le podium au classement général. Donc je pense que la hype autour de Paul Sexas, elle monte de plus en plus, et ça, c'est encore pire pour Tadej Pogacar, parce que nous, on veut que le Français batte Tadej Pogacar. Donc, je pense qu'il y a quand même un lien aussi entre le fait que Paul Sexas arrive vraiment fort et que lui se fasse de plus en plus huer.
Je vous pose une question. Si jamais il y a deux coureurs, Pogacar et Sexas arrivent ensemble sur une arrivée genre à l'Alpe d'Huez, vous pensez qu'est-ce qu'il va faire Pogacar? Vous le dites de suite. Hein.
Il va le laisser gagner.
Ah voilà. Ben voilà, parce qu'il est très intelligent aussi et à un moment donné, il va gagner le tour, mais il est pas bête. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un aussi à un moment donné qui est très intelligent.
Cette année, c'est bien. Il y a deux arrivées à l'Alpe. Ils peuvent en prendre une chacune.
Ce qui nous arrange déjà, ça ferait une victoire française parce que on en a besoin. L'année passée, c'est Paul qui a gagné au Ventoux. Et cette année, on est là. Mais les jours passent, ça fait 10 étapes. C'est quand un Français va gagner? Parce que Poxessas, il joue placé. On va falloir commencer que le public commence à demander à Pogacar de penser à Sexas.
Richard, tu vas pas prendre la place des journalistes qui vont mettre la pression sur les coureurs français. Tu vas pas.
Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais je pense que c'est bien probable que on va avoir un scénario qui va se présenter, qui va se présenter dans les prochains jours. Mais ça va être à notre faveur, donc moi je suis preneur.
Ouais, tout à fait. Alors on évoque le collectif aussi de cette équipe UAE, vous l'avez dit, il y a des coureurs qui sont un peu moins bien, qui ont été un petit peu décevants. Quelles infos on a, Maria Azé? Tu nous as rejoint, Maria, sur cette équipe UAE. D'abord, tu as peut-être une information technologique à nous donner.
Oui, sachez que Tadej Pogacar, aujourd'hui, dans les 10 derniers kilomètres, il n'avait plus de radio. En fait, il était en train de tester une nouvelle radio aujourd'hui. Et donc...
ça marche bien. On va refaire l'expérience.
Ouais, le test n'est pas probant.
Non, le test n'est pas probant. Et surtout, quand il y a trop de bruit du public, il a dit, Tadej Pogacar, qu'avec le bruit du public, il n'entendait plus rien dans sa radio. Donc les tests ne sont pas hyper concluants. Voilà,
il faut savoir, que petite précision, que l'oreillette, il ne faut pas croire qu'on entend comme dans votre iPhone la journée très nettement. C'est souvent des grésillements, les coureurs s'arrosent, les coureurs tirent sur le fil, ça ne va jamais. On n'entend pas nettement toute la journée. En plus, quand dans le tour, il y a du public, il y a des hélicos, c'est très bref, c'est pas très net. Hein, les communications via l'oreillette, c'est pas du téléphone à téléphone.
C'est de la HF, les liaisons entre la voiture et les coureurs. Ça passe pas par l'avion, ça passe pas par
c'est téléphonique. C'est de la HF. Ouais. De toute façon, à partir du moment où il y a trop d'écart, par exemple, donc déjà,
même avec
on le voit, dès qu'il y a un écart de 40 secondes, le groupe derrière, les motos, les voitures, si la voiture est en cinquième position, c'est limite déjà.
Ouais, bien sûr. Ouais, plus l'ambiance en montagne,
oui, bien sûr,
très forte.
Richard, pour vous mettre en configuration d'une radio, en tout cas d'un écouteur, quand vous mettez un écouteur, vous mettez dans une voiture, vous mettez la musique de la voiture avec un bon son, et vous mettez une oreillette et vous demandez à votre directeur sportif de vous parler. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire, on entend beaucoup de choses. La musique et l'oreillette, on entend, on essaye de déchiffrer ce qu'il va dire. D'accord? Donc, pour un peu.
Ah, mais toi, Richard, à ton époque, c'était des magnétophones, tes oreillettes.
Merci. Non, mais moi, à mon époque, je vous dis franchement, moi, quand ça parlait, souvent, on décidait beaucoup sur le vélo. On prenait les oreillettes, on les dégoupillait de derrière, vous savez, on le dégoupillait. Et une fois qu'on savait qu'on s'était dégoupillé, on la laissait comme ça. Et après, on faisait notre course. Et à l'arrivée, le directeur sportif venait me dire, voilà, on t'a pas entendu. Non, ça n'a jamais marché. Voilà, donc moi, c'était comme ça.
Mais tu oubliais que tu étais filmé et qu'on voyait que l'oreillette pendait à côté. Tout le monde s'était rendu compte de la stratégie.
Non. Je débranchais gentiment un petit coup, que ça débranchait l'émetteur qui était dans la poche derrière et rien vu ni connu.
Maria, qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe UAE aujourd'hui? Est-ce qu'on a des petites infos? Est-ce qu'il y a des gens qui sont moins bien, à l'image d'Isaac Del Toro, bien sûr?
Oui, Isaac Del Toro, bien sûr. On a aussi parlé de Brandon McNulty et d'Adam Yates, qui n'ont pas pris, qui n'ont pas fait une grande journée. Ils n'ont pas montré une grande force collective. J'ai envie de dire, heureusement qu'ils ont Tadej Pogacar qui est capable de faire le boulot tout seul.
On parle bien de la dernière partie. Ne dites surtout pas aux coureurs. qui était le cœur de la boîte à gants et les guibolles à l'envers au bout de 30 bornes dans la Pampa, que l'équipe UAE n'a pas roulé fort. Hein.
Quand il essaie,
c'est vraiment la dernière partie
quand
montagnard.
Quand il essaie les échapper à 45, ouais, une minute.
Vermeer, Bolitz, Wellens,
ils ont fait le temps de travail.
C'est plus McNulty et Yates, du coup, qui n'ont pas fait un travail exceptionnel. Et Isaac Del Toro, évidemment, qui prend une trentaine de retard sur son leader, qui prend quasiment une minute sur Evenepoel et sur Isaac Del Toro. Donc forcément...
Sur Sexas.
Et donc forcément, on a demandé à son directeur sportif, Andrei Hauptmann, Rodolphe Riault lui a demandé si les coureurs étaient un peu fatigués. On l'écoute.
I think for sure a bit. We say in the morning that Tadej and Isaac speak on a final climb, on first category climb. And I didn't speak yet with riders and...
Ils ont parlé, mais je n'ai pas eu le temps de les voir, donc je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Et voilà, on va en discuter ce soir, mais oui, tout le monde est fatigué. Globalement, c'était un peu tout le monde est un peu fatigué. Bah, on en a parlé aussi beaucoup. Forcément, quand on a le meilleur coureur du monde dans son équipe, il y a besoin de faire du travail, il y a besoin de rouler. Et à force de rouler, d'alimenter ce rouleau compresseur qu'il y a eu à eux, bah, forcément, les coureurs, ils commencent à être fatigués. En plus, il y a eu cette petite mésaventure, entre guillemets, sur la journée de repos avec la clim. Ils avaient fait trop de branchement sur l'hôtel, ils ont fait disjoncter l'hôtel, donc pas de clim. Ouais, c'est de leur faute. Donc pas de clim. Ils n'ont jamais réussi à redémarrer la clim, donc pas de clim dans la nuit de dimanche à lundi et dans cette nuit. La nuit dernière. Et donc voilà, bon, ils ont leur drap, leur fameux drap rafraîchissant, mais peut-être qu'ils n'étaient pas en grande forme aujourd'hui, ou peut-être tout simplement qu'ils commencent à fatiguer.
C'est peut-être un élément, hein, cette journée de repos qui a été mal gérée chez UAE, non ?
Ben, c'est ce que je te dis, c'est une question souvent de dosage, de l'attention qu'on a sur certains coureurs par rapport à d'autres. Est-ce qu'on a fait assez de vélo ? Pas assez. Est-ce qu'on a assez dormi ? Est-ce qu'on a bien mesuré la récupération, la réhydratation ? Et puis, je vais vous faire une confidence, j'ai été parfois à l'hôtel avec les équipes de leaders quand j'avais l'équipe. J'ai été logé des fois avec Jumbo-Visma, à l'époque c'était Jumbo-Visma. Oui. Ils sont une armée de Mexicains. Ils sont énormément de staff auprès des coureurs à faire plein de choses. Et contrairement à eux, chez UAE, il n'y a pas tant de monde que ça. Moi, j'avais même trouvé très étonnant à l'époque qu'on n'apporte pas plus d'attention à certaines choses. Les gars sont plutôt décontractés. Et ce qui arrive peut-être aujourd'hui à Isaac Del Toro, c'est que quand il est leader sur les courses, ben c'est lui qui passe en premier au massage. On va le voir sans arrêt s'il a tout ce qu'il faut. On va le voir s'il a bien dormi. On va prendre tout ce qu'il faut pour savoir où il en est dans la récup. Mais là, aujourd'hui, il n'est pas leader, il est co-leader. Il y en a certains, ils font le taf, ils roulent, et puis c'est tout. Lui, il doit assumer un rôle quasiment le leader sans avoir complètement tout le monde autour de lui. Et c'est peut-être ce qui se passe là aujourd'hui, parce que le Tour, ça reste le Tour. Le Giro, c'est pas la même chose. Et il était leader sur le Giro, il n'était pas équipier.
Merci Jérôme Pinot. On ouvre notre deuxième page consacrée à Paul Sexas, qui confirme les espoirs pour son entrée dans un monde inconnu. On l'avait dit, une semaine de course, ça, il connaissait. En revanche, une journée de repos et puis entamer une deuxième semaine de course, ça c'était tout nouveau pour Paul Sexas. C'est vraiment l'autre enseignement du jour, c'est cette magnifique troisième place, Richard Virenque, qui est allé chercher Paul Sexas juste derrière Remco Evenepoel. Bah, j'imagine que toi aussi tu l'as trouvé épatant.
Ouais, il était patient. On a vu son équipe, on va dire très motivée pour le conduire à quelque chose de grand. Je pense que ils ont été, Jérôme Pinot l'avait dit, ils ont été à un moment donné, ils ont mal communiqué parce que un équipier devant qui roule 10 mètres devant les cadors, ça sert à rien. Donc voilà, peut-être il aurait pu peut-être patienter, mais bon, sinon non, à 10 jours du tour qu'on a effectué un sans faute, je dirais, il va pouvoir plus se révéler encore, parce que là je pense qu'il a pas encore lâcher les watts, même s'il est à fond, hein. Il a, parce que là c'est que des champions devant, on le voit, il a fini quand même fatigué, tout le monde est fatigué, mais il va se sublimer, et j'en suis persuadé, et il a le temps, il faut lui laisser le temps aussi, hein, parce que déjà ce qu'il fait c'est exceptionnel, donc non je suis très satisfait de ce qu'il fait, et c'est très encourageant pour la suite.
Alors tu sais Richard, il a un sparadrap, Paul Sexas, ce sparadrap il s'appelle Léna Marjac, qui est notre reporter et qui suit l'équipe Décathlon CMA CGM et le jeune champion en permanence, elle nous a rejoint. Bonsoir Léna.
Bonsoir tout le monde.
Et tu peux nous raconter les coulisses, là à l'arrivée, il y avait encore quelque chose de différent, à chaque fois on a l'impression que le phénomène s'amplifie.
C'est vrai, alors déjà il faut rappeler que ce matin tous les journalistes ont été informés que Paul allait
parlé au bus ce soir, parce que ça faisait déjà 5 jours qu'on ne l'avait pas entendu, donc tout le monde avait entendu le petit message, donc tout le monde était au bus, mais quand on a vu en plus ce qui s'est passé, cette 3e place aujourd'hui, au classement général aussi, il se rapproche d'Ayuso par exemple aussi pour le maillot blanc de meilleur jeune, du podium également, donc c'est vrai qu'il y avait une certaine effervescence autour du bus, il y avait niveau français, je pense, une vingtaine de journalistes. Et on a vu cette image de Paul Sexa sur son home trainer qui, quand tous les micros se sont avancés vers lui pour enregistrer ses paroles, a tout de suite demandé reculer un petit peu. Alors, est-ce que c'est par précaution parce qu'on sait qu'il veut se protéger de ce fameux petit virus qui pourrait tourner, ou est-ce que c'est parce que ça l'a un petit peu pris de court de voir autant de micros devant lui? Mais c'est vrai que cette scène a été assez perturbante, on va dire.
On l'a entendu en direct. Ouais, il a pris le temps de l'expliquer. Ouais. Tu dis 20 journalistes français ou il y a quelques étrangers qui commencent à venir?
Alors là, il y avait quelques étrangers puisqu'on a fait d'abord une première interview totalement qu'avec les journalistes français et après, il y avait 3-4 micros de journalistes étrangers qui ont pu avoir également Paul Sexa sur 2 petites minutes le temps de l'écouter. Mais c'est vrai que ce soir il s'est passé quelque chose de différent aussi dans les réponses de Paul Sexa. On l'a toujours entendu souvent face aux médias faire des réponses très courtes et c'est vrai que ce soir on a le sentiment qu'il s'est détendu, qu'il prend mesure aussi peut-être de tout ce qui se passe et ses réponses étaient bien plus longues que d'habitude.
Eh bien on va l'écouter justement, Paul Sexa à l'arrivée qui effectivement s'est lâché, on a senti qu'il y avait quelque chose qui était du soulagement aussi chez le leader de cette équipe Décathlon CMA CGM, Paul Sexa.
C'était très très dur. Le pied, ça c'est parti vraiment fort. J'ai senti que ça partait trop fort, j'ai géré. Et ça s'est direct écrasé. Donc après, on s'est retrouvé dans un petit groupe de favoris. Puis après, il y a eu l'accélération de Pogacar sur la deuxième partie de la bosse. Là, c'était à fond jusqu'en haut. Et puis après, on a essayé de collaborer. Ça a été très compliqué parce que beaucoup de coureurs n'ont pas réfléchi à la gestion de la montée. Ils sont partis à fond dès le pied. Du coup, ça a créé le chaos dans le groupe. Et après, on a laissé Jonas rouler parce que c'était peut-être le deuxième plus fort. Et même pour sûr, le deuxième plus fort. Et à Pogacar. Mais aussi parce que c'est lui qui avait le plus à perdre, je pense. Et il nous a emmenés jusqu'à la fin. Et après, on s'est battu pour les places. Ça a été une bonne journée. Pas toutes les troisièmes places au Tour de France ont la même saveur. Aujourd'hui, elle a quand même une très belle saveur parce que c'était une journée extrêmement dure. C'est super.
Léna.
Et justement aussi pour montrer un peu l'ampleur que ça prend même au sein de l'équipe, c'est vrai que certains nous ont confié ce soir qu'il a été juste impressionnant, qu'il impressionne tout le monde, qu'il ne faut pas oublier qu'il a seulement 19 ans et que ce qu'il est en train de faire c'est juste fabuleux. Et ça, ce sont vraiment des mots en interne au sein de l'équipe, c'est ce qu'on nous a confié ce soir où c'était difficile aussi de trouver des mots sur la performance et ce qu'est en train de faire Paul Sexa. C'est un premier feu d'artifice pour ce 14 juillet d'ailleurs.
Ouais, on a l'impression de retrouver le Sexas d'avant le Tour de France, lorsqu'il gagne la Flèche Wallonne, lorsqu'il termine derrière Pogacar dans Liège. Rappelez-vous, au début du Tour de France, on le sentait presque impressionné dans la conférence de presse avec tous les grands leaders. Il répondait sur 3-4 secondes. Là, il a retrouvé sa fraîcheur d'avant. Et puis, je trouve qu'il a toujours une analyse assez fine de la situation. Il n'y a pas de langue de bois dans le discours de Paul Sexas. Il explique des choses. Il donne à manger finalement reporter aux journalistes, alors que Pogacar et Vingegaard c'est toujours un peu plat quoi. Là il dit voilà, il y a des troisième places qui ont plus de saveur que les autres, on sent qu'il vibre pour ce qu'il a fait et voilà. Et puis cette maturité, ce métier en termes de coursier hein, parce qu'il ne fait pas d'erreur pendant toute la course. Il aurait pu essayer de partir derrière Poggi mais il serait sans doute brûlé les ailes. Là il est resté et juste sur la fin quand Evenepoel a accéléré, il a essayé de prendre sa roue. C'était très difficile de prendre la roue de Remco, ça tout le monde le sait. Hein.
Moi je te rejoins sur l'analyse Paul Sexas, c'est frais, c'est nickel, ça parle très bien, il répond, il est sur l'homme traîneur, il prend le temps d'espacer les micros et ça me plaît. En revanche, ce qui me plaît un peu moins, c'est l'équipe. Faut pas s'emballer, on est à la 10e étape du tour, il est certes épatant parce qu'il n'a que 19 ans, mais s'ils l'ont emmené là, c'est qu'il savait qu'il allait faire ça. Et depuis des mois, on dit, il est dans une autre galaxie, il y a Pogacar, il y a Vingegaard. Et il est plus fort qu'Ayuso, il est plus fort que Skelmose, il est plus fort que Lipovic, pour l'instant il est derrière. Donc il ne faut pas s'emballer, il faut garder les pieds sur terre. Ce n'est pas le moment dans l'équipe de s'emballer sur une belle journée. Aujourd'hui, Paul Sexas, pour moi, avec le niveau qu'il a, il peut aussi sortir ces gars-là. dans le dernier col. C'est une boîte de 4 km. Ça ressemble un peu au Bossard.
Je crois qu'il aurait dû faire plus.
Du grand Paul, il aurait pu faire. Je dis qu'il ne faut pas s'emballer avec ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est capable de faire mieux, je pense. Ouais.
Il a sorti Del Toro quand même.
Ils ont sorti Del Toro.
Ils ont.
Del Toro s'est sorti peut-être. Jérôme Coppel.
Il a sorti Vingegaard.
Toi, tu vas pas nous raconter le contraire. Ça fait des semaines, des mois que tu nous dis de toute façon, Paul Sexas, vous allez voir, on n'a rien vu, quoi, en gros. Donc là, toi, t'es pas surpris, mais on imagine qu'au sein de l'équipe, ils doivent pas être si surpris que ça.
Ah, mais non.
Ils sont peut-être rassurés, quoi.
Ah ben, oui, non, mais tu sais en théorie ce que le coureur est capable de faire sur un grand tour. T'as les chiffres, t'as tout. Mais tant que tu l'as pas fait, c'est comme si on dit à toi, t'es capable de faire 3 heures au marathon. Mais tant que t'as pas fait ton marathon en 3 heures, bah, tu sais pas si t'es capable de le faire. Bah, eux, ils ont tout. Ils savent. Mais maintenant, il faut que prouver sur le terrain.
C'est pour ça que je dis ça, parce que c'est très contradictoire, en fait. On a écouté son entraîneur, ils savent, il est super, il est truc, et ils sont finalement très contents de ce qu'il a fait.
Non mais heureusement ça.
Il ne faut pas s'emballer.
Mais
ce serait quoi s'emballer qui tape Pogacar sur le Tour de France, Jérôme ?
Non, mais que s'ils s'emballent eux, c'est le grand risque, c'est d'être tellement content, c'est de plus devenir conseiller, entraîneur, préparateur, c'est devenir fan. Et ça, il ne faut pas que ça arrive. Mmh. Parce qu'on manque d'intention, on est moins concentré, et là on fait des erreurs.
Mais on a toujours... Je ne veux pas dire rien vu de Paul Sexas, mais pas encore tout vu. La preuve, il n'avait jamais fait une journée de repos, il n'avait jamais couru aussi longtemps, ne serait-ce que dans l'organisation d'une course. Et on ne sait pas toujours ses limites. On ne sait pas comment il va être dans la troisième semaine dans les grandes étapes de montagne. En fait, en face de Paul Sexas, depuis 2 ans maintenant, il n'y a que des points d'interrogation. Des pages blanches. Il débarque des juniors. C'est des courses de 140, 150 km le plus long. Premier point d'interrogation l'année dernière, championnat du monde. Ah, c'est un des championnats du monde le plus dur, 260 km, point d'interrogation. Allez, tu barres le point d'interrogation. Championnat d'Europe, deux semaines après.
Il y avait le championnat de France
voilà.
Aussi.
Allez, on barre. Là, c'était première journée de repos, point d'interrogation. On barre. Comment il va encaisser une journée de repos avec une étape ultra difficile? Il le dit, on ne l'a pas entendu dans l'interview, mais il dit c'était une étape pour mec fort. Oui. Bon, bah, une étape pour mec fort, il y avait un point d'interrogation, tu barres le point d'interrogation. On fonctionne que comme ça avec Paul Sexas.
Lui casse ces trucs-là, j'en reviens toujours à ce que je dis, c'est lui casse ça, mais à côté, j'espère qu'ils ne sont pas surpris, parce que ce serait inquiétant pour la suite s'ils étaient surpris.
Richard Virenc, tu penses qu'il doit, avec une journée comme ça, revoir un petit peu les objectifs à la hausse, ou justement, il faut toucher à rien? On continue ce qu'on avait prévu au début du tour.
Ouais, il faut qu'il le prenne à la détente. C'est un peu le jour. Et je pense qu'il doit tellement être content de faire partie du tour, Paul Sexas, parce qu'il est très jeune. Et il doit être tellement content. Et rien qu'à écouter ce qui se passe, il doit sentir quelque chose, une émotion. Ça grouille autour de lui, ça se palpe. Lui, personnellement, il doit le palper. Donc, je pense qu'il est dans le plaisir d'un sport qu'il adore. Il est jeune. La jeunesse, voilà, c'est la fougue. Donc, il faut qu'il reste comme ça. Il a droit de faire des erreurs. Il a droit. Moi, je pense qu'il ne faut pas le stresser, parce qu'on a la chance de l'avoir maintenant à 19 ans, d'être comme ça. C'est super encourageant pour la suite. Donc là, je pense que c'est tous les jours dire, Polo, allez, fais le max. Mais en tout cas, on est content de ce que tu fais. Voilà, continue. C'est un peu ça l'attitude. Mais on ne se met pas des objectifs malades. Voilà. Donc à un moment donné, s'il se loupe, il se loupe. C'est pas bien grave. C'est déjà magnifique ce qu'il nous donne à voir. Ça nous fait un peu vibrer. Le tour, là, Pogacar est en train de plier la chose, et Paul Sexas redonne une dynamique avec aussi Lenny Martinez, hein, qui est lui qui a 3 Tours de France. Lenny, on le sent beaucoup plus, on va dire, courir au millimètre. Il attend, ouais. Lenny, on sent, hein, il ronge son frein, il attend son heure. Hein. Donc, je fais le maillot à poids. Voilà, Sexas, lui, il est plus dans l'attente, parce qu'il ne sait pas, il découvre tout, et de découvrir, ben voilà, profites-en. C'est tellement beau de faire du vélo quand on a, on va dire, ces jambes-là et cette fraîcheur mentale, toute cette fraîcheur de tout. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'il en profite.
Par rapport à Paul Sexas, c'est quoi son objectif? Moi, j'ai jamais entendu parler d'objectif pour Paul Sexas. Peut-être Léna t'en a un. Moi, j'ai jamais entendu.
Faire le mieux possible, c'était ça.
Voilà, c'est quoi faire le mieux possible?
Ouais, mieux possible au classement général.
Mieux possible au classement général.
Voilà.
40e, pas de victoire d'étape.
Il l'a jamais fait. Donc, quoi qu'il fasse, et d'ailleurs, ça, moi, ça serait mon premier objectif pour lui, c'est de terminer le tour, peu importe le classement. Et il l'a jamais fait. Ce sera forcément un bon classement général.
Comme quand non. tu fais ton premier marathon pour rester dans les.
Bah pourquoi bah c'est quoi, ah, c'est quoi l'objectif
si
de Paul Sextas?
Si il termine 90e, ce sera pas un bon tour, Jérôme. Arrête.
Il gagne une étape et il fait 90e du tour.
Il gagne une étape.
Bah je sais pas. Bah on parle d'objectif de Paul Sextas. J'en ai jamais entendu.
Son objectif, c'est de terminer le tour. Non, c'est pas terminer le tour. Quand t'as 19 ans, t'es annoncé comme un prodige, comme un élu. Bah t'es un gagne petit là. Je suis désolé. Il est pas là pour finir le tour. Il est là pour briller sur le tour.
Il a jamais fait le tour. Son premier objectif, ça devrait être de terminer le tour et de faire 3 semaines. Et de voir comment il est en troisième semaine.
Avec des ambitions comme ça qu'on va aller loin dans le sport français.
Non, c'est avec des journalistes comme vous où on va aller trop vite et voilà, on fait que
Jérôme,
dire ça.
Jérôme, s'il termine 50e et qu'il n'a pas de victoire d'étape, ça sera un peu décevant.
Non, parce que s'il prend un éclat cette semaine et qu'en troisième semaine, il pèse sur la course sans avoir de classement général, sans avoir de victoire d'étape,
tu rajoutes des choses.
Non, tu m'as pas laissé parler, laisse-moi parler. Tu verras, je vais te le dire.
Tu dis ce qu'il doit faire, c'est
il doit terminer le tour et peser sur le tour. Troisième semaine.
Peut-être.
Ça, c'est son
premier
objectif. C'est
pas uniquement terminer le tour.
Mais bien sûr, terminer le tour. Okay. Parce que s'il fait deux semaines, t'apprends quoi sur Paul Sextas? S'il fait deux semaines de tour, si dimanche il bâche, t'apprends quoi sur Paul Sextas?
Pas grand chose, mais s'il termine le tour à la 140e place, ça prendra pas grand chose.
On fera un article chaque jour sur le premier jour de la troisième semaine, après le deuxième jour de la troisième semaine.
Ce qui est important, je pense, pour Paul Sextas, c'est de prendre du coffre. Et comme le disait Jérôme Coppel, l'important, c'est qu'on aille à l'arrivée à Paris. Et à Paris, on fera un peu les comptes, mais qui prenne un pet un jour, c'est pas bien grave. Par contre, qui nous donne une étincelle encore un peu plus, on demande que ça. Mais il a déjà donné des étincelles. Hein. Donc, mais finir le tour, c'est vrai que c'est primordial parce que tout coureur qui finit le tour, on prend de la caisse et on n'est pas comme au départ du tour sans avoir fait le tour. Donc ça, c'est sûr que pour lui... ça serait une bonne chose de le finir et de nous mener un bouquet. Là, il a déjà mené un podium. C'est déjà pas mal. Troisième. Donc voilà. Donc maintenant, il lui reste que Pogacar lui fasse un beau cadeau dans les prochains jours.
C'est d'ailleurs assez drôle, ça, Richard, ce que tu dis, parce que on n'entend pas les coureurs plus expérimentés, plus vieux, dire oh, j'ai fait 3 sur une étape du Tour, 4 sur une étape du Tour. Il a encore son âme de jeune, parce que avant de passer chez les pros. Faire 4, faire 5 sur une course, c'est bien, quoi. On le dit, oh, je ne gagne pas, mais je fais 4, je fais 5. Quand on passe pro, c'est tu gagnes ou tu perds. En fait, c'est ça. Mais lui, il est toujours dans cet état d'esprit-là.
Paul,
et c'est ça, sa fraîcheur. L'autre jour, il dit, je me suis fait serrer dans le sprint, dommage, parce que je pense que j'aurais pu faire podium de l'étape dans quelques années, parce qu'effectivement, finir le tour, dans quelques années...
C'est un mec qui a souvent terminé 4-5 quand il était chez les jeunes, j'ai l'impression qu'il gagnait tout.
Lui, je pense...
C'est largement au-dessus du lot.
Ce qui est frais, Christophe, ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas conscience, lui, qu'il est au-dessus de tout ça. Et ça, c'est très bien, parce qu'il faut que ça continue.
On se calme un peu. J'ai l'impression qu'il y a de la tension dans ce studio.
Il faut monter sur un vélo, les amis, là, les commentateurs. Vous allez voir, vous êtes moins nerveux. Hein, parce qu'on va vous faire la moitié d'étape.
T'as terminé combien de ton premier tour, Richard?
Je crois 20 et quelques. Mais bon, j'ai pas fait
Paul, ce serait magnifique.
Alors, écoutez, moi, j'ai pas fait le classement général. Non. Et moi, j'ai été au service de mon équipe. C'est-à-dire, plusieurs fois, je me suis retrouvé en tête du Tour de France avec notamment Claudio Capucci, devant dans les Alpes, hein, au Sestriere. Et on est venu me chercher, me dire, Pascal, il a le maillot jaune derrière, il faut l'attendre, tout ça. Donc, attends 15 minutes pour récupérer Lino. Ou alors, quand je suis devant, moi, je prends le maillot jaune le deuxième jour, je suis avec Charlie Mottet, Caritou, Maggio, tout le monde là. On me dit, ah, Richard, t'as pris le maillot jaune, mais nous, on vient pour gagner le tour, donc on va le laisser partir demain. Donc voilà, moi j'ai fait le tour au petit équipier, au petit Varois qui arrive dans le Tour de France où on leur dit, tu vas dans la chambre, tu vas nous nettoyer les pompes. Parce que c'était ça à l'époque, hein, le vélo. Hein. C'était pas comme maintenant. Hein. À table, t'avais pas le droit de parler. T'as pas le droit de parler à table. Non, t'as pas le droit de parler. Donc, moi, j'ai connu ce vélo-là où tu étais le larbin parce que t'étais un néo-professionnel. Mais bon, j'ai poussé un peu des portes et voilà, j'ai su à un moment donné. Voilà, faire connaître un peu plus.
On sent les souvenirs là. Parfait, merci Richard. Allez, on respire quelques secondes et on revient. On parle aussi des adversaires pour Paul Sextas, les possibilités. Et on va faire un petit clin d'œil à l'équipe Bora, où il y a peut-être des petites choses à régler. À tout de suite.
RMC, l'After Tour,
Pierre-Yves Leroux.
la deuxième mi-temps de l'After Tour. On reste un peu dans le chapitre Paul Seixas, mais avec les adversaires. On l'a dit, Isaac Del Toro a pris un petit coup. Il a perdu près d'une minute par rapport à Paul Seixas. C'est le cas aussi de d'autres adversaires comme Vingegaard. Alors là, ça se compte vraiment sur les doigts de la main, les secondes. Mais il y a une équipe qui nous surprend. On est un peu étonné. Romain Asselin, tu nous as rejoint. Salut Romain.
Salut l'After.
On voulait faire un... Ça sera le cas dans quelques instants, un petit carton à cette équipe Bora. On va donner le nom exact de l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe. Et tu as rencontré le directeur sportif, Patxi Vila, qui fait un petit bilan de cette journée. Peut-être qu'on ne va pas faire le même, mais on l'écoute déjà. On lui laisse la possibilité de s'exprimer.
L'équipe a fait un super travail, pas juste Remco, Lippo aussi était au top, tout s'est bien déroulé. Profitons de ce moment, Remco termine second, il s'est super bien battu. Lippo quatrième, c'est fantastique. Il y a deux jours, on n'était pas satisfait, mais là, très content de cette performance. C'est toujours bon d'avoir deux options pour le général, de pouvoir jouer avec la tactique, la stratégie. C'est des problèmes de riches.
Voilà, des problèmes de riches. Alors, Florian Lipovits, Remco Evenepoel, on ne comprend rien, on ne sait pas qui est leader, qui doit finir devant, qui doit emmener l'autre. On va se faire un petit carton, tiens.
RMC, l'After Tour,
le carton.
C'est un carton rouge, Jérôme Coppel ? C'est un carton orange ?
C'est un jaune bien mûr.
Ah ouais,
un jaune bien mûr. J'attends de leur mettre le carton rouge un peu plus tard. Je pense on aura une deuxième vague, à mon avis, dans cette équipe. Donc, pour l'instant, je laisse un peu jaune. Alors déjà, depuis le début de la saison, depuis l'arrivée de Remco Evenepoel, ça a toujours déjà été un peu compliqué niveau stratégie. Cette équipe, elle a souvent couru à l'envers depuis le début de la saison. Et sur le tour, c'est la même chose. Il y a eu une bonne stratégie chez eux en début de saison, c'était au Tour de Catalogne. Rappelez-vous, Remco Evenepoel a pété, il a roulé 30 km pour Lipovits le lendemain. Donc rien à dire sur Remco, il a fait le taf, il a fait le travail. Résultat, l'étape arrivée à Gavarnie, où Remco Evenepoel demande à Lipovits de rouler 1 km, c'est pas moi qui le dis, c'est Remco qui l'a dit après l'arrivée, il le demande de rouler 1 km pour pouvoir aller faire des bonifs à l'arrivée, Lipovits n'a pas voulu. Donc là, première guerre un petit peu entre les deux, et après ça, bien sûr, tous les médias sont tournés vers Patrick Lefebvre, qui connaît très bien Remco Evenepoel, qui a dit Remco Evenepoel avec un co-leader, ça ne peut pas marcher. C'est un mâle alpha, il faudra qu'il soit absolument tout seul. Donc pour l'instant, ça va, mais à un moment donné, ça ne marchera pas. Patrick Lefebvre se trompe quand même rarement dans le vélo. Et là, Red Bull Bora, j'ai rarement vu des équipes, de toute façon, d'une manière générale, avec deux leaders. Je n'ai jamais vu que ça fonctionnait très bien. Avec Remco Evenepoel et Lipovits, ça marchera pas mieux non plus à mon avis. Et là donc il y a eu ça. Aujourd'hui on a vu que Remco Evenepoel a failli être distancé sur une attaque de Lipovits. Donc Lipovits accélère, attaque, et Remco Evenepoel passe par la fenêtre. Alors après, Lipovits n'a pas roulé avec Vingegaard et compagnie, ce qui a permis, parce que le résultat de Remco Evenepoel aujourd'hui, c'est un résultat en trompe-l'œil. Si le parcours n'est pas comme ça, il prend peut-être une minute, Remco Evenepoel. Alors qu'il pète sur une partie qui lui est favorable, en plus une vallée où on s'est dit justement peut-être ils vont reprendre du temps à Tadej Pogacar devant. Il arrive à revenir et avec son jump, il arrive à faire deuxième, mais la finalité de l'étape aujourd'hui, c'est que il a pété sur une attaque de Lipovits et ça revient encore à ce qui s'est passé à Gavarnie, c'est-à-dire il n'y a pas d'entente. À Ussel, il y avait 50 coureurs dans le groupe derrière l'échappée de Remco Evenepoel, ils n'étaient que tous les deux. Et là, Lipovits allait chercher des bidons pour Remco Evenepoel. Remco n'est jamais descendu à la voiture prendre un bidon pour Lipovits. Donc il y a quelque chose qui se trame là-dessous, c'est jamais bon, il nous reste encore deux semaines de course. À mon avis, ça va exploser bientôt chez eux, mais exploser pour de bon, parce que là, il y a eu un premier petit pétard après Gavarnie, mais bientôt c'est la bombe qui va sortir et c'est jamais bon sur un Tour de France.
Mais ça, on le savait avant le départ du Tour. Je veux dire, quand tu engages les deux derniers troisièmes du Tour de France dans la même équipe...
T'engages Evenepoel alors que tu viens de faire trois.
Alors que Lipovits vient de faire trois et que Evenepoel avait fait trois, celle d'avant. Et il y avait Roglic. Donc, de toute façon, tu sais que tu te mets...
Déjà, le message que t'envoies à Lipovits à ce moment-là, il n'est pas bon du tout. C'est, tu viens de faire troisième et Lipovits, il est nouveau dans le vélo quand même, c'est un jeune coureur très bon, il est encore presque encore en formation, il vient du biathlon, on le rappelle, et il fait troisième de son premier tour. Là tu dis ok, t'as fait troisième, mais en fait on croit pas du tout en toi, on va aller chercher quelqu'un d'autre. Et ça, le message, il n'est pas bon du tout. Et Lipovic, tout coureur du Tour de France, surtout les leaders, il veut, tu mets pas deux coqs dans la même basse-cour. C'est impossible, ça ne peut pas marcher. Et Lipovic, même si c'est un taiseux, etc., etc., lui, ce qu'il veut, c'est avoir le leadership et c'est faire le meilleur classement possible. Il ne va pas se sacrifier pour Evenepoel.
Je crois que ça peut être Ino Lehmann, le même genre de truc.
Ouais, ou sauf pas pour faire un et deux.
Sauf que Ino Lehmann,
c'est le temps, non? Armstrong, alors Armstrong Contador, ça avait été la cata totale.
Ah, ouais, moi
ça
j'ai
ressemble
fait...
plus à ça, non?
Ça ressemble à ça. Alors je pense que c'est pas encore. Ouais, moi, les stratégies d'équipe et tout, ça me rappelle plutôt Movistar parce que les stratégies sont pas très bonnes. Au moins, ouais. Contador et Armstrong avaient fait 1 et 3. Ils avaient gagné le tour en 2009 et Armstrong avait fait 3
et 6. Là, ils sont 3 et 6. Ils sont, pour l'instant ça ouais. Tient,
mais moi, j'avais fait d'accord. Mon premier Tour de France en 2009. On faisait hôtel avec Astana à l'époque quand Contador, Armstrong arrive avec Contador. Il y a deux tables. Ah, oui. Donc ils descendent, il y a Armstrong avec Sagard, il y a Contador avec Sagard, et dans le peloton, il y a deux équipes en une. Enfin, tu te demandes d'ailleurs comment ils ont fait un si bon classement en général, parce qu'ils étaient plus forts. Ah, eux, ils ne sont pas plus forts. Oui, on se demande plus. Eux, ils ne sont pas plus forts, c'est ça le problème.
Richard, t'es ce soir le manager général de cette équipe, tu leur dis quoi, tes gars? Richard Vianque. Ah, on l'a perdu, Richard, peut-être.
Non, je disais, le problème, c'est les partenaires. Ouais. Les partenaires qui veulent à tout prix, on le sent, hein, gagner le Tour. Et coûte que coûte. Et donc, c'est maladroit, comme vous le dites. C'est très maladroit de mettre deux têtes comme ça pour gagner le Tour. Et moi, ça, je l'ai vécu aussi dans ma carrière. Donc, c'est très maladroit. Et à un moment donné, il va y avoir de la casse. Ça, c'est certain. Mais bon, il y en a toujours un des deux qui va avoir l'ascendant sur l'autre. Hein. Donc, mais il y a une rivalité qui est bonne quelque part parce qu'il y en a un des deux qui va passer en, on va dire, en mode force, hein, et qui va battre l'autre, hein, voilà, mais c'est une petite guéguerre qui va être à l'avantage des adversaires, voilà, donc c'est pas productif, on va dire.
Ouais, c'est peut-être pas mal pour Paul Sexas, effectivement. Ça pourrait être un avantage. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Richard, en quelques mots. C'est Lenny Martinez, qui est l'autre Français qui a brillé aujourd'hui. Christophe, il a été... on l'a vu, il est là, il est surtout dans un top 10.
Ouais. Alors
certes, il n'a pas pu aller chercher les poids, mais il est toujours là en tout cas.
Ouais, c'est vrai qu'entre les poids et le général, on a l'impression que le cœur de Lenny balance, et ce soir au terme de cette 10e étape, le casse-tête est loin d'être résolu. Le jeune grimpeur de la Bahreïn qui a montré certaines limites, hein, même s'il est dans le coup, il n'est pas parvenu quand même à suivre le rythme des cadors du général dans le final. Il termine l'étape au 10e rang, à un peu plus de 2 minutes de Poggi, et perd un rang au général, puisqu'il est ce soir 9e à 6 minutes 34 du maillot jaune. Quant au classement de la montagne, là aussi, il perd des plumes. S'il n'avait que 12 points de retard sur Poggi ce matin, il se voit désormais séparé des poids de Pogacar par 26 points et a même vu Carapaz, Prodhomme, Sexas et Bodin lui passer devant. Alors que faire si les poids rouges sont loin d'être joués? Il reste pas moins de 6 étapes de montagne. On ne voit pas bien comment notre grimpeur de poche pourrait parvenir à rattraper Pogacar, à moins que maillot jaune estime que la victoire soit déjà jouée pour le général et qu'il se contente de suivre le rythme des autres en montagne. On sait que c'est pas vraiment le genre de la maison. Il faut quand même rappeler que depuis 2020, les poids du meilleur grimpeur n'ont échappé que deux fois au vainqueur du classement général. En 2024, lorsque Carapaz avait fait le plein lors de l'étape d'Isola 2000 en empochant plus de 60 points en une seule journée. Autre cas d'école, le succès de Ciccone une année plus tôt, où l'Italien avait réalisé la même opération sur l'étape de Courchevel. Mais pour espérer réaliser une telle opération, il faut avoir le nez creux, des jambes de feu et ne plus inquiéter grand monde au général. Alors pour l'instant, Lenny n'est pas assez loin pour espérer bénéficier d'une carte blanche face à une meute qui déjà s'accroche à ses places au général. Alors que faire? Se laisser décrocher du général et miser en dernière semaine sur une longue échappée en solitaire, par exemple lors de la 20e étape qui s'achèvera à l'Alpe d'Huez et qui accordera pas moins de 70 points au coureur qui franchira tous les cols en tête. Voilà peut-être la solution. Si ça marche, c'est magnifique. Encore faut-il rester d'ici là placé au classement de la montagne et continuer d'avoir de bonnes jambes. Si ce ne sont les poids, doit-il viser le général? Ok, oui, mais pour quelle place? Un top 5, ce serait extraordinaire. Personne n'y croit vraiment. Un top 10, ça paraît peut-être plus réaliste. Est-ce que faire top 10, ce serait l'objectif à atteindre pour Lenny Martinez? On sait qu'un top 10, malheureusement, quelques semaines après, plus personne s'en souvient. Donc voilà, messieurs, que doit faire Lenny Martinez? Que lui conseilleriez-vous? Moi, je sèche, mais c'est vous les experts.
Richard, tu lui conseillerais quoi?
Bah, qui se relève de suite, parce que là il est en train de creuser un fossé avec son maillot à poids et il perd des points. Bon, c'est des petits points, mais il creuse un fossé et il est encore au classement général. Donc le général, il recule en même temps, donc il perd un peu le général, il perd le maillot à poids et à la sortie il va tout perdre. Donc et pour un autre conseil, faire 5e, 6e, 8e du tour, franchement, je l'ai fait plein de fois, on l'oublie presque, on a fait cette place. Par contre, d'aller faire le show devant, d'aller prendre un maillot à poids, je peux vous dire, ça va vous changer, ça change un homme. Hein. Et en même temps, quand vous faites le show devant, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, il arrive une belle victoire. Parce que quand on prend des risques, on va devant, on prend des risques, on l'a vu Carapace l'année passée, on prend des risques, et ben on est récompensé. Et Lenny, c'est ça qu'on a besoin. C'est qu'il reste comme ça dans l'ombre, et on a besoin qu'il aille prendre des risques, prendre le maillot à poids et gagner une étape.
Mais le souci, Jérôme Pinault, c'est qu'aujourd'hui, c'est un leader, Lenny Martinez, et que peut-être que du côté de son sponsor, on veut plus un top 10.
Il faut qu'ils embauchent des équipiers alors, parce que... Pour l'instant, il est tout seul, hein, Lenny. Là, on doit lui tirer un grand coup de chapeau de se battre comme il se bat. Ça fait 100 bornes aujourd'hui dans une étape de moyenne montagne qu'il est tout seul.
Juste avant que tu continues, j'ai regardé. À l'arrivée vers Ussel, le deuxième coureur de Bahreïn est arrivé à 17 minutes, alors que Lenny arrive à 6 secondes.
Et aujourd'hui,
Caruso, le deuxième coureur de Bahreïn, à 25 minutes.
Ah oui. Donc là, déjà, il y a un problème. On a embauché Lenny Martinez, c'est pas pour faire le maillot à poids du tour, c'est pour faire le classement général du tour. Mais comment voulez-vous qu'il apprenne à faire un classement général en étant seul à 100 bornes à aller chercher des bidons? C'est pas possible. Après, je rejoins pas du tout Richard sur son argumentaire, parce que se relever pour faire quoi comme épopée? Vous avez vu ce qui se passe dans le groupe de tête? Il y a Pogacar et il y a les autres. Mais s'il y a les autres, les autres dans les grandes étapes de montagne, ils vont se taper dessus. Il n'y aura pas d'envolée phénoménale à la Richard Virenque. Martinez n'aura pas l'espace pour faire ça. Et même s'il est à 20 minutes, aujourd'hui, ce n'est pas si dur. Aujourd'hui, pour lui, c'est une belle étape. Mais il a quand même rétrogradé. Il s'est fait lâcher. Il va falloir qu'il parte devant. Vous avez vu aujourd'hui les échappées, combien elles ont pris? Elles ont pris 1 minute 30 d'avance.
Oui, mais ça va changer.
Mais non, ça ne va pas changer. UAE va vouloir gagner les belles étapes de montagne. Et les autres, et les Visma, et Decathlon. Et Bora Hansgrohe, Red Bull, ils vont vouloir aussi gagner des étapes. Donc, ça va être très compliqué pour Lenny. Moi, je pense qu'il apprendra beaucoup plus en s'accrochant tous les jours. Et même si pour vous, top 10, ça ne veut rien dire. Bah pour moi, top 10, ça veut dire quelque chose. Parce que c'est la première fois qu'il atteindra ce genre de classement sur un grand tour.
Il a que 23
Lenny
ans.
Martinez n'a que 23 ans et a été recruté par une grande équipe du peloton pour à coup de millions. Sinon, à part le salaire, il fallait qu'il reste chez Marc. Lenny fait le taf. Il faut qu'il fasse le taf jusqu'au bout pour montrer à son équipe que maintenant, il a besoin de matos autour de lui.
Jérôme Coppel, avant de retrouver les auditeurs pour la fin de l'After Tour, j'ai besoin d'un arbitre. J'ai Richard Virenque qui dit il faut qu'il aille chercher le maillot à poids. Et j'ai Jérôme qui dit non, il faut qu'il joue le top.
Le maillot à poids, ce sera Tadej Pogacar.
C'est ça. En plus, ça sera Tadej Pogacar. Donc, je suis plutôt du côté de GG pour le coup.
Ah, c'est tout.
Ben c'est tout, il a donné tous les arguments.
Ça fait 2-1, Richard.
On a les mêmes arguments. Ouais. Donc,
pas de problème. On va faire les comptes à l'arrivée. Hein, comme quoi
Richard, il y a deux fois arrivé au sommet de l'Alpe d'Huez.
Il va avoir du mouvement. L'Alpe d'Huez, ces étapes-là, les échappées, il y en a qui vont prendre pas mal de minutes, ils vont faire le show devant. Et Pogacar, à un moment donné.
Pogacar, s'il peut gagner deux jours de suite à l'Alpe d'Huez,
ça va trop crier d'ici là. Et je pense qu'à un moment donné, il va changer. Comme l'année passée.
Pogacar va faire des cadeaux aux Français pour être aimé dans le pays.
L'année passée, Pogacar, il a levé le pied les 4 derniers jours. Et je pense qu'il va faire exactement pareil. Il va laisser un peu plus jouer.
Parce que s'il se relève, rien ne nous garantit qu'il sera capable d'aller dans l'échappée et d'avoir le maillot à poids non plus. Donc autant qu'il s'accroche et si un jour il pète.
Il marche fort pour aller dans les échappées. Moi, je ne dis pas que Lenny n'est pas capable d'aller.
Non.
Je dis que les échappées n'iront pas chercher l'ensemble des points. C'est ça que je dis. Parce que Tadej Pogacar et ses coéquipiers voudront gagner ces étapes-là et donc il aura tout perdu.
On verra. C'est intéressant. On a deux visions différentes. Je ne sais pas quelle est la vision d'Alexis, qui est notre auditeur ce soir. Bonsoir, Alexis.
Bonsoir tout le monde.
Salut, Alexis. Merci.
Salut, Alexis.
Dans l'After Tour. Eh bien, je te laisse avec nos consultants. Tu peux leur poser toutes les questions que tu veux.
J'ai une question qui n'est pas très optimiste en soi. Quand on voit l'étape d'aujourd'hui, où c'est du tableau noir, mais un tableau noir assez triste, on sait exactement comment ça allait se passer, avec les Lidl Trek qui vissent jusqu'au sprint intermédiaire, les UAE qui roulent, Pogacar qui attaque dans le Pertus, pile au même endroit qu'en 2024, il avait perdu l'étape. Je voulais savoir, surtout l'avis des anciens coureurs, est-ce que c'est pas trop démoralisant au départ, de savoir qu'en fait on sait qui va gagner, sauf incident diplomatique, entre guillemets, bien sûr. On a l'impression que les équipes étaient résignées, qu'il y avait 20 équipes qui attendaient la fin de l'étape ou qui allaient se batailler uniquement pour la seconde place.
Jérôme Pinot.
Alexis, tu as fait la sieste après entre le sprint intermédiaire et le final de l'étape ? Parce que moi, j'ai vu à peu près toutes les équipes du peloton essayer d'attaquer. Quand tu es au départ de la course, tu fais avec les moyens. Tu sais, Alexis, dans ce peloton, il y a 35-40 coureurs capables de gagner une étape. Il y a 5 coureurs capables d'être allez, 10 coureurs capables d'être dans le top 5 au général. Tu as 3-4 coureurs qui peuvent essayer de viser le maillot vert. Et puis, tu en as autant qui peuvent essayer le maillot à poids. Et les autres, bah, ils tentent. Et puis, un jour, ça paye, un jour, ça paye pas. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Si aujourd'hui, seuls les coureurs qui sont sûrs de briller prennent le départ de cette étape, bah, ils sont 2 au départ, ou 4. Mais la beauté de ce sport et d'une étape comme celle d'aujourd'hui, c'est que ça a pétaradé de partout. Enthousiasmons-nous avec ce qui se passe sur la route. Les audacieux, les tentatives. Moi, aujourd'hui, je suis un passionné de cyclisme. Romo doit tous les jours être super combatif, pas Carapaz, mais il a fait une belle étape. Les Français, Valentin Paré-Peintre, a beaucoup tenté, ils ont tout tenté. Maintenant, ça ne marche pas parce qu'il y a un scénario qui, pour le moment, ne le permet pas. Mais en tout cas, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que faut pas être noirci comme ça. C'était une belle étape, ouais, enfin, un grand vainqueur.
Tu ne nous encourages pas avec ce que tu viens de dire précédemment, où il va tout croquer.
Mais il faut sortir. Et combien de fois j'ai dit dans les étapes aussi intermédiaires, mais sortez maintenant, parce que de toute façon, quand on arrive dans des grands moments, il n'y a plus la place pour les moyens. J'ai été un moyen toute ma carrière. Je n'attaquais pas le jour de l'Alpe d'Huez. Je savais que ça ne servait à rien. Il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et je pense qu'aujourd'hui, et avec l'étape du sel, on a assisté à un fabuleux spectacle.
Le spectacle est fabuleux. Là où je rejoins Alexis, c'est que, en fait, comme c'est UAE qui ont les clés du scénario final et du bouquet final, donc tout le monde essaye d'aller devant en se disant ils vont nous laisser 7 ou 8 minutes. Et au final, quand UAE leur laisse 1 minute 30, ils comprennent que la victoire sera pour l'équipe UAE. Donc ils se relèvent. Mais le bon côté de ça, c'est que quand les mecs se relèvent, ils se relèvent complètement. Aujourd'hui, tu as 30 coureurs qu'on fait. Tu as ceux qu'on castagné avant.
Ils gardent des cartouches, je veux
dire. Voilà, et après, ils gardent des cartouches pour la suite. Avant, tu t'allais devant, tu te limais avec tes 2-3 minutes, ça allait au bout, ça allait pas au bout, etc. Mais en fait, tous les jours, tu te limais un peu. Et là, ceux qui se relèvent, ils se relèvent d'un seul coup et ils terminent vraiment très très loin, parce qu'aujourd'hui, il y a des écarts incroyables, en espérant qu'un jour, mais là où tu as raison Alexis, c'est que c'est UAE et Tadej Pogacar qui ont la clé, mais en espérant qu'un jour, ou sur plusieurs étapes, ils se disent « Ok, celle-là, on la laisse aux baroudeurs et on leur donne 7 ou 8 minutes d'avance. »
Mais toi, Richard, en revanche, tu donnes des éléments positifs à Alexis. Toi, tu penses qu'il y a des choses qui vont se passer. Au bout d'un moment, il va être obligé de lâcher.
Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on a quand même roulé pendant plus de 100 km à 46 de moyenne. Ce qui veut dire par là, on ne parle pas de UAE, on parle de tous les autres qui veulent se barrer, donc il y a vraiment pas mal de coureurs qui disent « on y croit, on y va, on y croit, on prend des risques ». Mais bon, après, quand ça ne marche pas, ils se relèvent et ils laissent les champions. Donc moi, je suis très optimiste sur cette dernière semaine du Tour. Bon, optimiste, pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui va gagner le Tour que Pogacar. On a bien compris qu'il est bien parti pour le gagner. Mais derrière, il y a vraiment des choses qui... Regardez aujourd'hui, il y avait Pogacar devant, même s'il était à 30 secondes ou il aurait pu être à 2 minutes. Mais derrière, il y avait un vrai duel. Il y avait le duel avec un Français et même un deuxième qui était là. Et on s'enthousiasmait de ça. Parce qu'il y a une révélation. Il a 19 ans, il peut pas faire, il va craquer, il va pas craquer. On a Martinez qui est là. Donc on s'enthousiasme de ça. Moi, je trouve que même si on le sait qu'il va gagner le Tour, derrière, il y a des choses qui se passent. Et moi, aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée parce qu'il y a eu une belle course. Et jusqu'à la fin, il y avait une incertitude. Voilà. Donc, et moi, d'avoir vu Pogacar bouger la tête, tourner la tête, la bouche ouverte, tout ça, ça m'a fait plaisir. Je dis, peut-être il est malade, peut-être il va craquer. Voilà. Donc, c'était une bonne journée.
Bon, tu vois, Alexis, on a deux visions différentes qui s'affrontent et on va être attentif pour voir justement quel schéma sera celui du Tour de France 2026 dans les jours à venir. Merci beaucoup, Alexis, en tout cas, d'être venu dans l'After Tour.
Ah, Alexis.
Bon Tour de France, bonne fin de Tour de France, en espérant voir nos Français briller encore un petit peu plus. Petit coup d'œil sur l'étape de demain, messieurs, rapidement. Là, on va retrouver nos sprinteurs. Ils sont tous passés, personne n'a été éliminé.
Personne n'a été éliminé. Le coup d'œil va être rapide. Hein. C'est l'étape entre,
comme la main.
Ouais, quasiment, entre Vichy et Nevers, 161 km. Un premier sprint intermédiaire assez tôt, comme souvent hein, au bout de 27 km. Donc l'échappée devrait partir après. Deux petites difficultés de côte de quatrième catégorie. Voilà, on devrait revoir les sprinteurs en action demain en direction de Nevers.
Eh bien, vous avez 10 secondes chacun pour me donner votre favori pour l'étape de demain. On commence par toi, Jérôme Pinot.
Tim Merlier pour la passe de 3.
Ouf. Philipsen, parce que Van Der Poel lui aura redonné confiance.
Ouais, mais c'est dur hein, pour Philipsen. On va voir s'il va réussir à en accrocher une. Et toi, Richard, tu nous donnes qui comme vainqueur demain au sprint?
Si je dirais Tim Merlier. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les sprinteurs qui gagnent, ils enchaînent 1, 2, 3, 4 victoires. Et donc, Tim Merlier est parti pour enchaîner plusieurs victoires.
Et puis il a réussi à ne pas être éliminé aujourd'hui. Tim Merlier qui pourrait faire la passe de 3 demain. Merci à tous les trois. On se retrouve pour l'after tour demain et chaque jour hein, sur la chaîne de podcast du peloton RMC pour débriefer chaque étape. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux. On vous montrera les coulisses, on vous présentera chaque étape. Et puis vous avez toujours l'application RMC Sport 100% route pour suivre, 100% route pour suivre toute l'actu du Tour de France. Merci beaucoup, à demain. Ciao.
RMC, l'After Tour.